toujours sur Radio Entre Deux Mers, 98.4 FM, www.redem.com. C'est l'heure du coup de cœur de la grainetterie avec Ludivine. Bonjour Ludivine.
Bonjour Damien.
Et bienvenue sur Radio Entre Deux Mers, donc pour nous présenter ton coup de cœur de la semaine. Et aujourd'hui, ça va être un roman fantastique.
Tout à fait, un roman fantastique qui est un premier tome. Et c'est donc dans L'ombre de Paris, le premier tome de La Dernière Geste, premier chant. Et c'est par Morgan of Glencoe.
D'accord. Alors, de quoi nous parle ce livre ?
Alors, ce livre, en fait, se passe en partie à Paris, en 1995, mais dans un univers qui est totalement différent du nôtre, puisqu'il est partagé entre trois puissances, qu'on appelle la triade, parmi lesquelles on compte l'Empire du Japon, le Sultanat de Bagdad et l'Empire de France.
D'accord, donc il s'est passé des choses différentes.
Et il faut savoir que dans cet univers, les humains cohabitent, si on peut appeler ça comme ça, avec les fées. Les fées telles qu'on les connaît dans tout le folklore faïque qui peut exister. On y trouve des feux follets, des selkies, voilà. Toute une ribambelle de créatures qu'on trouve dans différentes mythologies, notamment la mythologie celte, qui est très importante dans le roman. Et on va donc suivre comme personnage principal la jeune Yuki, qui elle appartient à la noblesse japonaise, puisqu'elle est la fille du seigneur Nekoaima, qui était aussi l'ambassadeur du Japon.
Okay.
Donc elle a été élevée selon les préceptes de la noblesse, donc avec un grand détachement, des règles extrêmement strictes, surtout en ce qui concerne la position des femmes, et surtout dans la haine des fées, qui sont considérées comme des animaux, voire pires, et qui sont donc complètement en marge de la société, et qui sont notamment utilisées comme des animaux de combat, dans des arènes.
D'accord.
Donc il y a vraiment une dissension entre les humains et les fées. Donc la princesse a été élevée dans cette optique-là. Et au début du tome, donc, elle débarque en train à Paris et découvre qu'elle a été fiancée, sans que son père le lui ait dit, au prince héritier du royaume de France.
Ah oui.
Voilà.
Pour essayer de faire une surpuissance.
C'est ça, pour faire une alliance, parce qu'il y a beaucoup d'intrigues politiques aussi, du coup, entre ces différentes puissances. Donc elle découvre ça, mais en bonne princesse et jeune fille à l'éducation parfaite, elle accepte sans rien dire. Jusqu'à ce qu'un personnage lui donne de façon assez surprenante un choix. Donc écoute, soit tu acceptes ton destin, tu te maries au prince de France et tu deviens reine et tu te conformes à ce qu'on t'a toujours appris, soit tu t'enfuis du palais et quelqu'un te trouvera et t'aidera.
Voilà. D'accord, bon, on ne va pas en dire plus.
On ne va pas en dire plus,
pour laisser
voilà. C'est dans le résumé, donc ça ne révèle rien, mais déjà avec un gros suspense.
Oui.
Voilà, et cette héroïne assez... assez intéressante, puisque jeune femme conforme à son statut, mais très intelligente, mais jeune, très obéissante aussi, qui ne remet pas forcément en question son éducation, mais en même temps avec une certaine envie de liberté qu'on sent poindre quand même dans les premières pages. Mais voilà, ça pose l'intrigue. C'est ce qu'on lit sur la quatrième de couverture, donc pas de révélation.
C'est ça, l'intrigue est posée. Donc au niveau de l'univers, on reste quand même donc dans quelque chose que l'on connaît, où il y a vraiment le fantastique qui apparaît à tout moment.
Alors c'est assez étonnant, parce qu'en fait on reste en France, donc 1995, qui n'a rien à voir avec ce qu'on en connaît. Il y a un côté steampunk. Un petit peu dans l'esthétique, avec notamment...
Donc steampunk, pour les auditeurs, c'est un peu Mad Max.
Oui, il y a ce côté un peu 19e siècle aussi dans les costumes, dans les technologies, et avec quelque chose de plus futuriste aussi. Là, par exemple, il y a des combats en 3D, et en même temps, il y a le chemin de fer qui est hyper important, comme il pouvait l'être au 19e siècle. Enfin, c'est un univers vraiment... C'est assez original, vraiment, dans l'univers qui a été construit. Avec ce mélange des cultures aussi, parce que la Yuri, du coup, la princesse japonaise, elle est vêtue de son kimono, de son hobi, de façon très traditionnelle. Et en même temps, elle va côtoyer la cour de Louis XIX, du coup, je crois.
Ah oui.
Voilà. Donc il y a vraiment un mélange des genres total, et avec cette très forte présence de la culture celtique. Parce que Morgan of Glencoe, du coup, l'autrice, est passionnée depuis toujours de culture celtique. Enfin, on pourrait y revenir, mais elle fait de la harpe notamment. Enfin, elle a vraiment baigné là-dedans.
Okay.
Et donc, avec ces créatures, ben, les faées, les selkies, qui sont des créatures de la mythologie celtique nordique à la base, et qui sont très importantes dans le roman. En fait, c'est la grosse part de fantastique, finalement, c'est l'existence de ces créatures magiques,
oui,
et surnaturelles, mais qui font partie du quotidien tout en étant exclues, parce que c'est la méfiance, c'est la déviance, en fait, ces créatures-là, qui sont des sous-hommes, finalement. Donc, il y a toute cette question d'un racisme, en fait, sociétal, et ça questionne beaucoup le rapport à l'humanité. Et ça, c'est assez intéressant. Voilà. Et puis la culture celtique, notamment aussi à travers la musique.
Ok.
Je ne peux pas trop en dire là encore une fois, mais qui parcourt tout le roman, avec notamment cette chanson du répertoire celte avec Will You Go, Lassie, Will You Go. Je ne sais pas si ça te parle. Mais, alors, je ne vais pas la chanter, je ne vais pas faire non. ça à nos auditeurs. Mais alors, j'ai le titre, parce qu'elle a plusieurs noms. C'est aussi The Wild Mountain Theme, ils appellent ça, ou Purple Ever, voilà, qui revient régulièrement. Et donc, il y a l'importance de la musique, du chant. Voilà. Et d'une culture qui a été occultée par la triade aussi.
Okay.
Là encore, je ne peux pas trop en révéler, mais qui a son importance. Donc, gros mélange d'influences, mais quand même avec cette patte celte.
Oui, occidentale, assez, orientale, voilà, extrême orientale.
Voilà, il y a un gros mélange des cultures assez intéressant, et des époques, et des. Voilà. Mais si les gens aiment la faïrie, voilà, tout ce côté magique et mythologique à la fois, je pense que ça peut plaire.
D'accord.
Et un roman assez passionné, assez fougueux, c'est un premier roman.
Ok.
Et ça se sent, je pense que l'auteur l'a écrit avec une certaine passion, et même dans les aspirations des personnages, et ce questionnement de l'humanité, et cette place de la musique, voilà, ça fait quelque chose de très bouillonnant, il y a une intrigue foisonnante, on suit de nombreux personnages, même si la princesse Yuri est le personnage principal, oui, à mon sens. Et on ne s'ennuie pas à un moment. Entre la découverte de cet univers très original, en fait, et très riche, et les péripéties qui s'enchaînent, on est assez rapidement plongé dans le roman. Personnellement, moi, je ne m'y attendais pas vraiment.
Et si.
Et on se prend bien au jeu. Et quand on referme le premier tome, on se dit, là, il va quand même falloir la suite.
Et il y en a, la suite existe.
Voilà, le deuxième est sorti. Alors, je ne sais pas s'il y en aura deux seulement, ou s'il y en aura plus, peut-être une trilogie.
Ok.
En tout cas, celui-ci, c'est le premier chant, donc celui qui est sorti, le deuxième chant.
Oui.
Donc, y en aura-t-il trois, y en aura-t-il plus, ça, je ne sais pas encore si c'est annoncé comme une trilogie, mais le deuxième est sorti.
Et donc, l'auteur est jeune ou
Alors, elle est née, elle a 32 ans, en fait, Morgane Olvengo, elle est née en 1988. Et à l'origine, elle avait publié son roman en autopublication sur Internet. Et en fait, elle a été remarquée par les éditions ActuSF, et là, c'est paru, du coup, dans leur collection Naos. Mais c'était d'abord auto-édité. Et donc, c'est une artiste très, très polyvalente. Ça, je l'ai découvert en faisant les recherches pour le coup de cœur. Elle est née donc en Bretagne, à Porouette, on sait correctement. Et elle explique qu'elle s'est très tôt intéressée aux littératures de l'imaginaire, et notamment donc, aux fées, à la culture des fées, etc. Et donc, elle a commencé à écrire très tôt, et elle fait aussi de la musique, ce qui peut expliquer l'importance de la musique dans le roman.
Oui.
Elle fait notamment de la harpe celtique, voilà, assez particulier. Et elle avait fondé son groupe qui s'appelait les Ménestrels des Terres. Donc apparemment, maintenant, elle fonctionne plutôt en solo.
Okay.
Voilà, mais elle compose, elle est parolière, elle chante, elle fait des concerts, du théâtre. Elle avait fait une espèce d'opéra musical aussi. Opéra, un peu la façon des opéras rock, mais donc avec ce style.
Un opéra breton.
Voilà, un opéra breton, complètement. Donc, ça a une grosse place pour elle, et la culture, du coup, bretonne, celte, et ce rapport à la faïrie aussi. Voilà, il y a vraiment tout un imaginaire quand on a des auteurs comme ça, hyper polyvalents, et ça se ressent, je trouve, aussi dans le roman.
Ouais. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus qu'il y a les auteurs qui sont polyvalents, qui touchent aussi bien à l'écriture, la musique, le dessin, à différents niveaux.
J'ai l'impression que ça se retrouve, et je me demande si Internet, quelque part aussi, avec cette possibilité de se publier et de partager ses créations soi-même, mais aussi de se former, par certains, bon, ça ne remplace pas tout, mais par certains aspects, je pense que c'est aussi un facilitateur. Elle, c'est ce qui lui a permis d'être édité clairement,
oui,
et de partager son travail,
de se faire connaître
aussi,
du coup.
Et du coup, là, elle a sorti un album en solo, mais l'année dernière aussi, ça a été une grosse année, je pense, pour elle, 2020 quand même, parce que c'est la date de sortie du second roman aussi, qui s'appelle Fleur du Porrette.
Ok.
Voilà, du nom de sa ville d'origine. Et donc, on peut retrouver certaines de ses chansons sur YouTube, et notamment celle de son ancien groupe. Voilà.
D'accord, donc elle s'appelle.
Alors, je pense que j'imagine que c'est un pseudonyme, mais bon, elle est connue sous le nom de Morgane of Glencoe.
Ok, et le livre s'appelle.
Et le livre, donc c'est le tome 1, La dernière geste, premier chant, et le tome 1, donc c'est Dans l'ombre de Paris.
Dans l'ombre de Paris, très bien. Ben, merci pour ce coup de cœur.
Avec plaisir.
Et au niveau de la grainaterie, il se passe des choses ou ça reste en stand-by, et au niveau des activités, et il y a toujours le prêt de livres et de documents qui a lieu.
Ouais, on est essentiellement sur du prêt pour le moment. On accueillera simplement le 27 février un nouvel atelier numérique dans le cadre du pass haptique, donc dans des conditions optimales de sécurité, mais c'est déjà complet, sauf désistement, voilà, donc c'est de l'accompagnement, en fait, utilisation d'Internet, des outils numériques.
Pour toute personne, à tout âge.
Pour tout âge, voilà, pour toute personne qui serait intéressée. Mais malheureusement, pour le moment, on reste essentiellement quand même sur du pré-document, avec toujours le vendredi qui est en drive, donc clic et collecte, donc ça c'est sur rendez-vous. Mais le mardi, mercredi, samedi, il est possible d'accéder aux locaux de façon à peu près normale.
D'accord. Voilà.
Dans l'attente, on le souhaite vivement, de reprendre
oui.
Mais toutes les animations et que la médiathèque reprenne vie pleinement.
C'est voilà. Ça. On l'attend.
Tout à fait.
Très bien. Mais merci beaucoup, Ludivine. N'hésitez pas à aller sur les sites de la médiathèque. Donc, il y a le Facebook, la Grainetterie. Il y a également via le site de la mairie de Sauveterre.
Oui, avec notre rubrique médiathèque, la médiathèque.
Oui.
Et on a aussi un portail, oui, ça, j'ai pas, peut-être pensé à le préciser les fois précédentes, on a un portail qui est commun avec nos collègues, parce qu'on travaille en réseau, avec les bibliothèques de Blasimon, Gornac, Romagne, Targon et Mestérieux.
Okay.
Donc le portail c'est Réseau Bibli Sauveterrois, et dessus vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux bibliothèques du réseau, mais aussi accéder au catalogue, donc savoir si tel ou tel ouvrage est dans le fonds documentaire de vos bibliothèques.
D'accord, ce qui permet voilà, de choisir son livre, de le réserver et de pouvoir venir le chercher le vendredi.
Et on y est, et puis, voilà, de le réserver. Et puis on actualise aussi toutes nos activités. Là, par exemple, on avait fait pendant le second confinement, on avait fait des vidéos de présentation de bouquins aussi sur YouTube, même si c'est tout aussi bien d'écouter les podcasts ou le direct sur Radio Entre-deux-Mers. Et on avait mis un lien sur le portail. Donc, c'est assez complet aussi sur les différentes activités. Il y a un agenda aussi de l'ensemble des activités des bibliothèques qu'on espère remplies très bientôt.
C'est ça.
Voilà.
Très bien. Mais merci beaucoup.
Donc,
n'hésitez pas à suivre la Grainetterie de Sauveterre de Guyenne. C'est la médiathèque et toutes les bibliothèques et médiathèques qu'il y a autour de chez vous.
Tout à fait.
Merci bien et à bientôt.
À bientôt.